des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, je suis vraiment très contente de vous retrouver ce matin. Nous sommes le 30 mars 2017, du moins au moment où cette émission est diffusée. Mais que je vous dise tout de suite, un secret qui n'en est plus un, c'est un secret de Polichinelle, c'est que les émissions sont toujours enregistrées à peu près 2 semaines à l'avance. Et nous sommes au lendemain, vous savez, de cette tempête qu'il y a eu il y a 2 semaines. Vous vous en souvenez évidemment, nous on a encore les pieds dedans, la ville est encore belle, blanche et tout ça. Tout cela pour vous dire que notre invité du jour, qui est M. Jean-Paul Daou, le poète, a accepté de participer depuis maintenant pas mal de semaines, voire de mois, mais il a refusé de se déplacer aujourd'hui, ce que nous comprenons très bien. Alors, c'est une entrevue qui se fera par téléphone. Mais Jean-Paul Daou n'est pas le seul invité à cette émission, que nous allons commencer dans quelques secondes avec Gérald Cousineau, qui est déjà au bout du fil. Et puis, en seconde partie, il y aura un bénévole, en l'occurrence M. Claude Robillard. Alors, tout de suite, on va y aller avec Gérald Cousineau. Cher Gérald, comment allez-vous?
Ma foi, fort bien, chère Clotilde,
bien. Je suis très heureuse, Gérald, mais vraiment que vous ayez choisi un livre dont j'ai parlé très rapidement dans le cadre de ma rubrique « Les titres en rafale » qui vient conclure cette émission à chaque semaine. Alors j'espérais bien qu'à un moment donné ou à un autre, quelqu'un m'en parle un petit peu plus longuement de ce livre et vous avez choisi de le faire sans même que nous nous en parlions.
Que nous nous en parlassions.
Que nous en parlassions. Écoutez, pendant que je le disais, je me disais, oh là 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 là, ça sentait l'imparfait du subjonctif. Et puis,
oh, je les adore.
Oh, il ne m'est point revenu, oh, Gérald.
Alors, je parle de M. Amine Malouf, en fait, oui. De son dernier livre, je crois, oui. Un fauteuil sur la Seine, 4 siècles d'histoire de France, paru en 2016. Oui. C'est disponible pas au SQLA cette fois, je suis allé au centre d'accès équitable aux bibliothèques, c'est là où on peut le trouver en format sonore. Mm-hmm. Et Amine Malouf, bien sûr, c'est l'écrivain franco-libanais bien connu, né oui. À Beyrouth en 1949, il a écrit des romans, des essais, et je l'ai appris, je l'ignorais, des livrets d'opéra. Prix Goncourt en 1993 pour Le Rocher de Tanyos, très beau livre, oui. Et bien sûr élu à l'Académie française en juin 1911, il va remplacer au 29e siège Claude Lévi-Strauss, qui n'est pas n'importe qui non plus. Donc c'est quoi ce livre-là? D'abord, Clotilde, d'une précision sur le titre, parce que quand moi j'ai entendu parler de ce livre-là, je ne voyais pas le titre à mon écran. Mm-hmm. J'entendais un fauteuil sur la Seine. Pour moi, c'était bien sûr la scène de théâtre. Mm-hmm. Mais non, pas du tout. C'est la Seine, le fleuve qui traverse Paris.
Oui, absolument.
Pourquoi? Parce que le tout premier occupant du fauteuil numéro 29 s'est noyé dans la Seine, on en parlera tantôt. Henri de Monterland, qui a occupé le même siège, se suicide en 1972 dans son appartement avec vue sur la Seine et l'Académie française elle-même est logée dans un édifice qui longe la Seine à Paris. Donc voilà pour ceux qui ne seraient pas, enfin, qui se posaient la question sur l'orthographe du mot Seine.
Non, mais c'est vraiment pertinent parce que, en plus, honnêtement, moi, je le savais et pourtant, je l'ai mal écrit sur ma feuille de route.
Bah, c'est ce que j'ai fait la première fois aussi.
Oui.
Autre précision, Clotilde, l'Académie française, bon, on dit qu'elle a été fondée en 1634, mais en fait, elle a été fondée plus tôt, mais sous un autre nom. C'est qu'en 1629, il y a Valentin Conrart, oui. Qui se souvient de lui aujourd'hui. Oui. Valentin Conrart et quelques amis fondent un cercle littéraire et chaque semaine, enfin, ils se réunissent régulièrement pour parler de toutes sortes de sujets. Or, le cardinal de Richelieu, le tout-puissant cardinal, entend parler de ce cercle et il va comme le rendre officiel en 1634 et ça devient l'Académie française.
Ah, c'est comme ça que c'est né alors.
Voilà, et notre ami Amine Malouf, lui, au moment d'écrire son discours sur son investiture en 2011, pour le mois de juin 2011, ben lui, il décide de, d'écrire sur tous ceux qui l'ont précédé à ce siège-là.
Voilà.
Et tous ces chapitres, il y en a 18, parce qu'il y a eu 18 prédécesseurs, lui le 19e, commence par « celui qui ». Il n'y a pas de celle qui, hein? Parce que jusqu'à présent, aucune femme n'a occupé le siège numéro 29 de l'Académie, même s'il y a des femmes aujourd'hui.
Deux, hein?
Pas plus que deux.
Non,
hein,
240, cher monsieur.
C'est pas beaucoup, hein?
Non.
On ne parlera pas d'égalité pour l'instant, là.
Non, ne remuez pas cette boue qui nous fait si mal.
On compte sur vous pour être peut-être la prochaine personne à occuper le siège numéro 29.
C'est mal barré, hein?
Donc, on voyage dans le temps et on commence. Donc, je reviens en 1634 avec le tout premier occupant, c'est Pierre Bardin, dont on a oublié le nom, je pense bien. Mais le malheureux, à 40 ans, il va se noyer dans la Seine.
Encore?
Et 14 mois après être devenu académicien. Donc, ça commence mal. Et d'ailleurs, Malou va ajouter, de façon un peu humoristique, voilà, c'est le premier immortel à mourir.
Ah ben oui, c'est vrai, tout à fait. Sauf que c'est pas le premier à mourir noyé dans la Seine.
Non, non, bien sûr.
Non, mais je veux dire, lui, non, mais lui c'est le premier, mais ensuite, il y a quand même eu Monterland aussi.
Ouais, en fait,
dont vous parliez tantôt,
Monterland, oui, comme je disais tantôt, il s'est suicidé, mais il s'est suicidé chez lui, dans son appartement, qui, comme je le disais tantôt, donne sur la Seine, avec vue sur la Seine. Donc, Pierre Bardin a été le premier académicien à occuper le siège numéro 29. Il y en a eu, bien sûr, plusieurs autres. Et là, je m'arrête, entre autres, à un certain, tenez-vous bien, François-Henri Salomon de Virlade.
Le dernier ferme la porte.
Ça ouvre des portes, un nom comme ça. Hein. Pourquoi on parle de lui aujourd'hui? C'est parce qu'il a battu, il a battu Corneille. On l'a préféré à Corneille, Pierre Corneille, auteur du célèbre Cid. D'ailleurs, Corneille ne fera jamais partie de l'Académie. Un peu plus tard, il y a eu un certain Florian. Vous rappelez-vous Florian? C'est loin, hein? Florian, c'était le protégé de Voltaire.
Oui,
semble-t-il. Et c'est à lui, je l'ai appris, qu'on doit la fameuse chanson « Plaisir d'amour ».
Oui, eh bien c'est pour ça.
Ne dure qu'un moment.
Mais oui.
On a tous chanté ça.
Ben absolument.
Florian a écrit des fables qui ne sont pas aussi célèbres que celles de La Fontaine, mais c'est à lui qu'on doit ces petits bouts de phrases qui sont passés dans le langage commun. « Rira bien qui rira le dernier ». C'est de lui, ça. C'est lui qui a écrit « Chacun son métier, les vaches seront bien gardées ». Et c'est lui qui a écrit « Pour vivre heureux, vivant caché ». Ça, c'est ma préférée, ça.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, c'est Florian. Et ensuite, il y en a eu d'autres, évidemment. Il y a eu notre ami, avant de passer à Claude Bernard. Claude Bernard, c'est le médecin, fameux médecin du 19e siècle. Imaginez-vous que Claude Bernard, quand il était jeune, il voulait se faire un nom comme dramaturge. On lui a fait comprendre assez vite que il se faisait mieux de se tourner vers la science, ce qu'il a heureusement fait. Ernest Renan, rappelez-vous Ernest Renan, celui qui a osé appeler Jésus un homme. Ernest Renan a publié un livre qui l'a fait connaître partout en Europe, « Vie de Jésus ». Or, dans ce livre, il osait appeler Jésus un homme, il le traitait comme un homme et non comme une divinité dont l'Église l'a dépeint comme le plus grand ennemi du christianisme. Aujourd'hui, ça fait sourire un petit peu. N'empêche qu'Ernest Renan a fait une œuvre assez puissante. Et ce livre-là, je pense qu'il est encore lu. Bon, je saute quelques années. Et je reviens d'ailleurs à Corneille. Quand je dis que Corneille n'a pas réussi à entrer à l'Académie, il y a eu des chicanes. C'était pareil pour Voltaire. Voltaire a fini par entrer à l'Académie, mais on lui a mis des bâtons dans les roues au départ. Victor Hugo, c'est pareil. Victor Hugo a réussi. Évidemment, c'était difficile de passer à côté de Victor Hugo. Mais ces trois-là ont eu quand même il y a eu des chicanes, des cabales. Ça n'a pas marché pour Corneille, mais ça a marché pour, bien sûr, Voltaire et Victor Hugo. Et bien sûr, on en arrive à le 18e, Claude Lévi-Strauss, l'éminent anthropologue. Et c'est à lui que va succéder Amin Malouf en juin 2011. Voilà.
Mais c'est passionnant, puis en même temps, c'est sur l'histoire de l'Académie française, mais sur l'histoire de l'histoire de France, quoi.
C'est vraiment un retour passionnant sur l'histoire politique et intellectuelle de la France depuis 1634. Alors, si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'histoire de France, si vous vous intéressez, entre autres, à l'Académie, c'est un formidable retour sur le passé. Et ce qui ne gâche rien, c'est écrit d'une plume alerte.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Je ne connaissais pas, alerte et même truculente à l'occasion.
Ah oui, non. Écoutez, Malouf, c'est pas le dernier des. Alors donc, il revient sur la Révolution, bien sûr, de 1789, la guerre de 70,
de Paris, etc.
L'affaire Dreyfus.
Bien sûr. Oui. Vraiment. il a fait un travail de recherche, je pense, colossal. Ça, ah, oui, là, hein. Je lui lève mon chapeau parce que c'est fouillé. Le texte est émaillé d'extraits de discours des immortels, mm-hmm. mais on sent la recherche et ce n'est jamais lourd. Ce n'est pas une œuvre d'érudition lourde, pas du tout. C'est écoutable ou lisible du début à la fin et on apprend beaucoup de choses. Que dans les 18 prédécesseurs, il y en a beaucoup dont on ne se souvient pas du tout.
Non, c'est ça.
Bien dire. Mais là, on se rend compte que plusieurs ont été élus, pas parce qu'ils avaient beaucoup écrit, mais parce qu'ils avaient un nom ou parce qu'ils avaient une vie. Il y en a un, entre autres, Joseph Michaud, qui a été condamné à mort deux fois, il s'en est sorti deux fois. Mais il y a des gens qui n'ont pas écrit grand-chose. Il y a des gens qui ont écrit seulement des œuvres scientifiques. Il y en a un qui a écrit seulement en latin. Alors que les académiciens, au départ, voulaient que les écrivains qui étaient dans l'académie écrivent leurs œuvres en français d'abord.
Donc, c'est apprend passionnant.
Plein de petites choses. Les chicanes, les cabales, ouais, hein.
Le pouvoir des rois, les cardinaux, tout ça.
Oh, oui, qui se mêlent de tout.
Oui.
C'est une mine d'or, une mine d'informations.
Eh bien, je vais peut-être finir sur... j'ai dans mon bureau pour l'instant, mais je ne l'ai pas encore vu disponible. Mais j'imagine, peut-être parce que je l'ai raté, il faudrait aller vérifier. Je ne l'ai pas encore vu disponible au SQLA, mais...
Non, j'ai vérifié encore tout récemment. Il est à l'ancien cas maintenant le centre d'accès équitable aux bibliothèques.
Mais donc, et ça, c'est vraiment disponible absolument partout, également via SQLA d'ailleurs, parce que je veux dire, on peut atteindre via le CAEB, on peut également avoir accès. Oui, absolument.
J'oublie toujours ça. Et voilà. D'ailleurs, parlant de Malouf, on peut trouver quand même presque tout Malouf maintenant en format sonore.
Oui, c'est-à-dire Léon l'Africain, Samarcande,
oui,
Origine.
Les Jardins de Lumière.
Voilà, les Désorientés.
Siècle, un siècle après Béatrice, quelque chose comme ça. Là.
Oui, oui. Oui, absolument. En tout cas, ils sont vraiment tous trouvables. Et je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir choisi ce bouquin sur lequel, eh bien, il méritait ce livre qu'on s'y étendait un petit peu plus ou qu'on s'y étendit un petit peu plus.
Oui, qu'on s'y étendit.
Ah, voilà. Eh bien.
Je suis pas sûr de mon imparfait. Là.
Non, moi non plus.
Mais c'est le son que j'aime.
Moi non plus. Alors peut-être qu'on va couper. Je sais pas. Mais en tout cas, je nous trouve vraiment très, très, très en forme et nous n'allons pas manquer de lire ce livre. Je le rappelle, d'Amin Malouf, je vous l'appelle au cas où,
oui.
M-A-A-L-O-U-F, un fauteuil sur la Seine, S-E-I-N-E, comme le fleuve. Oui, je sais bien, quand on dit le fleuve et que les gens qui connaissent le Saint-Laurent arrivent près
évidemment.
De la Seine, ils appellent ça un rue, vous comprenez. C'est même pas un ruisseau, c'est un rue. Alors, un fauteuil sur la Seine, S-E-I-N-E, 2.4 siècles d'histoire de France, d'Amin Malouf et Gérald, comme toujours, grand, grand, grand bonheur de parler avec vous et de parler de littérature, d'échanger sur ces livres que nous apprécions tant. Merci, Gérald.
Au plaisir.
Bonne journée.
Au revoir.
Salut. Et cette tempête de neige, cet hiver, a eu raison de sa venue en studio. Et comme nous le comprenons bien, Jean-Paul Daou, bonjour.
Oui, bonjour.
Mais oui, mais regardez, on ne vous aurait pas imposé comme ça de venir par un temps pareil, c'est certain.
C'est parce que c'est quand même délicat. Là, les routes, là, depuis hier,
oui.
On ne prend pas de chance.
Ou non, c'est ça. Et puis comme je l'ai expliqué à nos auditeurs, même si l'émission ne sera diffusée que dans deux semaines, eh bien, au moment où nous enregistrons, nous sommes au lendemain de cette tempête qui a frappé le Québec, entre autres, de plein fouet. Voilà. Mais nous allons parler de poésie. Vous savez, Jean-Paul Daou, vous êtes, ça vous le savez très bien, mais peut-être que d'autres l'ignorent encore, et mon Dieu que c'est dommage, mais vous êtes sûrement le poète le plus célèbre du Québec, le plus lu, le plus écouté. Hein? C'est quelque chose...
Il faut dire que j'ai une belle tribune avec plus
oui.
on est de fou, plus on lit.
Oui.
Ce cabaret me permet non seulement de parler de ma poésie, mais aussi de parler de celle des autres.
Mais oui, c'est ça, parce que vous l'aimez, la poésie. Vous êtes un fou de poésie, hein, depuis toujours, je pense.
Oui, c'est vrai que j'ai toujours écrit de la poésie, même quand j'étais Très jeune au collège, j'écrivais des poèmes dans le journal. Moi, je suis née à Valleyfield.
Okay.
Alors, donc, dans le collège qui était sur la patronne de Sainte-Cécile, donc, il y avait un journal qui s'appelait Le Sicilien. Et déjà, en syntaxe, méthode, j'y publiais des poèmes et finalement, on me donnait à la fin deux pages pour aller chercher d'autres poètes en herbe au collège.
Dites-moi, Jean-Paul Daou, c'est moi ou il y a comme une espèce de vent en ce moment léger qui fait tourbillonner un petit peu plus la poésie autour de nous, si
non,
vous me permettez?
Effectivement, moi j'appelle ça une sorte de charmant revival de la poésie.
Bon.
Parce qu'on a juste à regarder tous les événements qui, finalement, pousse un peu partout, que ce soit les derniers mardis de la poésie qu'organise Chloé Sainte-Marie dans un charmant bistrot qui s'appelle le Sainte-Cat, que ce soit la nuit de la poésie qui est organisée par l'équipe, justement, de Plus on est de fous, plus on lit, mais c'est art contemporain, lors de la nuit blanche. Et lors de la nuit blanche, il y avait aussi avec Kim Thuy et beaucoup d'autres, au Quai des Brumes. Mais ça, ce n'est que quelques événements, parce que beaucoup de lancements. Des fois, c'est fou, mais à Montréal, il y a 3-4 événements de poésie par soir.
Oui, c'est ça. Et espérons que ce ne soit pas qu'une bourrasque, alors.
Non, je ne crois pas, parce que moi, ça fait longtemps que je vois ça venir. Lors des lancements, il y a toujours des lectures de poésie, même si elles sont courtes, que ce soit au Pied des Brumes, que ce soit les lancements du Norrois à la Maison de la Culture sur le plateau, que ce soit à la Maison des Écrivains. Il y a beaucoup de lectures de poésie depuis quelques années.
Même chez Mado.
Ah ben évidemment, moi j'ai, parce que d'abord c'est un espace magnifique.
Absolument.
Et puis pour faire un lancement lors de mes fameux 5 à 7, quand je lance mes ordres radiophoniques, ben là, ça
mais
y est,
oui.
Hein,
c'est
un espace qui est très bien situé.
Mais oui.
Et en même temps qui amène un petit côté coquin, vous voyez.
Oui, ben c'est ça. Puis en plus, il y a même une soirée de la poésie, je pense c'est le troisième dimanche
du mois. Oui, ça c'est fait. Oui, effectivement. Donc, voyez. La poésie résonne dans la ville.
Oui.
Et ailleurs aussi, en région aussi.
Exactement. Et bien, écoutez, puis nous en sommes ravis. Vous savez, ça faisait longtemps que je voulais vous recevoir à l'émission. D'ailleurs, je me souviens, je vous avais arrêté dans la rue une fois ou deux. Et puis, c'était peu à peu, voyons, je vais finir par le dire, peu de temps avant que vous veniez enregistrer vous-même. Parce que vous êtes venu enregistrer ici.
Oui. Je suis allée enregistrer, je pense que c'était Poème de Babylone. J'ai fait le vitrail brisé. Non, ça, c'est pas moi qui ai fait le vitrail brisé. Mais bon, oui, je suis allée enregistrer.
Voilà. Moi, je pense que vous avez enregistré Libellule, Couleuvre et autres merveilles.
C'est merci de me rafraîchir. c'est bien.
Mais, Jean-Paul, j'ai mis beaucoup de temps avant de prendre le téléphone parce que je trouve ça vraiment déplorable qu'on ne trouve de vous que seulement, c'est ça, une coupe de vos recueils, alors que vous en avez fait tant, vous avez reçu des prix, Alors là, c'est même pas une question, je vais vous imposer quelque chose, c'est de revenir lire tous les recueils que vous avez écrits.
Bon, ben alors, ça, c'est un immense contrat. Ça va prendre beaucoup de temps, mais je peux au moins en choisir quelques-uns.
Oui.
Cendre bleue. L'Amérique existe déjà. Ça existe déjà. Je pense que vous pourriez vous en servir. C'était publié chez XYZ.
Oui.
À l'époque, c'était une cassette. Mais bon, maintenant, ils ont fait un CD, sans doute. Mais oui. Moi, je suis toujours
d'accord.
Disponible. Oui.
Vous êtes partant. Jean-Paul Daou, évidemment, j'ai lu beaucoup de vos poésies avant de vous recevoir à cette émission-là. J'ai lu aussi quelques papiers intéressants qui étaient sortis sur vous et entre autres une entrevue que vous aviez donnée à Luc Boulanger de La Presse.
Oui, et c'est lors de la représentation de Les Cendres Bleues.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Et c'est un article très, très touchant, où vous expliquez, entre autres, que si vous n'aviez pas eu la poésie, vous seriez purement et simplement mort.
Oui, parce que, vous voyez, je trouve qu'on a chacun une sorte de chaos personnel. Et par les mots, par la poésie, j'ai pu peut-être un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Bon, rappelons que Les Cendres Bleues, je parle de quand j'ai été abusée sexuellement quand j'avais 6 ans et demi. Et que, bon, ben, ce recueil-là, entre autres, bon, par les mots, j'ai pu peut-être un peu faire la paix. Vous savez, par la poésie, dans ce recueil, j'ai pu donner à l'enfant les mots qu'il n'avait pas alors pour comprendre ce qui se passait et comment finalement s'en libérer aussi d'une certaine façon.
Oui, oui, parce qu'en plus, hein, vous dites, il y a la poésie a cette vertu de pouvoir aller directement au point que l'on veut, quoi.
Oui, parce que, vous savez, en poésie, les mots, en général, sont comptés, sont étudiés. La poésie va à l'essentiel.
Oui.
Alors, elle oublie souvent tous les côtés un peu descriptifs, anecdotiques, qui n'ont pas peut-être... Je parle que dans le roman, c'est important, mais en poésie, ça, c'est secondaire.
Ouais.
En poésie, c'est peut-être justement aller essayer de capter l'invisible ou sinon d'aller à la pêche et de ramener des images qui sont surprenantes et parfois dérangeantes.
Oui, oui, oui. Je ne sais pas si j'ai raison, mais lorsque je vous imagine en train d'écrire, je vous imagine d'abord le faire avec une plume.
Ah, ben j'écris avec plein de stylos, oui.
Bon, d'accord.
Oui.
Et avec un petit verre de vin blanc sur le bureau.
Ah, ben oui, ça, mais j'essaie d'attendre 5 heures, voyez-vous.
Et vous écrivez encore?
Souvent, l'alcool nous permet d'être audacieux, mais quand on se recorrige le lendemain au Dubois, ce n'est pas si génial que ça.
Vous dites aussi dans cette entrevue de M. Boulanger que la job du poète, Jean-Paul Daou, c'est d'organiser le chaos. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez encore maintenant?
Oui, oui, oui. Surtout, vous savez, on est... Dans notre monde actuel, avec toutes les informations qui nous arrivent de partout, je pense qu'une civilisation n'a été si bombardée d'informations et surtout d'images.
Oui.
Et finalement, ça devient comme une immense pollution où les pires choses deviennent banales parce qu'on les entend, les redites. Et je pense que le poète est un peu le radar de son époque. Il doit justement être sensible à toutes ces vibrations qui nous entourent. Mais quand on parle de chaos, c'est essayer peut-être de faire le tri, de dire les choses qui sont vraiment importantes.
Oui. Mais est-ce que ce n'est pas finalement ce que faisaient les troubadours et les trouvères?
Vous savez, on n'invente rien.
On n'invente rien.
Les formes changent.
Mmh. C'est ça.
Mais c'est toujours la même sensibilité face aux sentiments, face à l'amour, à la haine, à la révolte, les revendications. Bon, elles changent d'époque en époque, mais en fait, c'est toujours le même terreau.
Bien sûr. Alors, il y a deux livres quand même. Il y a deux recueils qui sont disponibles en audio en ce moment, mais audio adapté. Hein. Moi, je ne vous parle pas d'audio dans le commerce. On parle vraiment d'audio adapté
pour les
personnes non-voyantes. Alors, il y a ces Libellules, Couleuvres et autres merveilles.
Exactement.
Et il y a aussi Le vitrail brisé.
Oui.
Ça, c'est un souvenir douloureux pour vous.
Oui,
peut-être
ça,
pas...
c'est un souvenir dû à une très mauvaise chute. J'ai eu des vertèbres cervicales de fracture. Le genou en miettes, des côtes brisées. Ça m'a pris un bon 2 ans à m'en remettre. Et j'ai voulu justement faire un pied de nez à la douleur qui était tellement intense. Essayer justement de faire de cette... Je l'ai appelé le vitrail brisé parce que, bon, évidemment, c'est comme on est tous un peu des sortes d'êtres de lumière, mais là, le vitrail a éclaté lors de la chute. Et comment recoller tout ça? Comment essayer de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. Et vous savez, dans la douleur physique, ça amène une immense solitude.
Oui.
Et c'est peut-être que ça me permet de pouvoir communiquer à ma manière en écrivant ce recueil que j'écrivais minutieusement et très peu à la fois parce que l'acte d'écrire reste physique. Alors quand vous êtes cassé de partout,
c'est difficile,
je pouvais pas
insupportable.
un genre de long poème épique, vous savez.
Non, je comprends.
Alors, c'était des petits tableaux que j'ai voulu faire pour apprivoiser la douleur, puis enfin lui dire qu'elle n'aura pas le dernier mot.
Mm-hmm. Si vous me le permettez, je voudrais juste en citer un petit. D'ailleurs, à ce moment-là, vous ne serez plus avec nous. Je veux dire, on aura raccroché, mais en seconde partie de cette émission, je prends toujours un 2 ou 3 minutes pour lire de plus larges extraits.
Ah, ben, c'est génial.
Voilà.
Ça, j'aime beaucoup que finalement, l'essentiel, c'est quand même le texte.
Ben oui, exactement. Alors, il y a celui-ci, par exemple, en page 19 de « Le vitrail brisé ». Où vous avez écrit le
oui,
corps.
Je l'ai devant moi, là.
Voilà, le corps. Ben, voulez-vous le lire pour moi?
Ah, ben oui, avec plaisir.
Allez-y, hein. Donc, je suis en page 19.
OK, alors oui, je l'ai. Le corps devenu un vitrail éteint. La douleur est ciselle avec minutie son œuvre. Le temps vole en éclats coupants. Les souvenirs charcutés chantent en discordance l'opéra de l'enfer.
Oui. On la sent, cette souffrance-là. On la sent, on le voit même, on l'imagine, hein, cet homme couché, souffrant.
Je me souviens lors d'une lecture dans un festival, au Festival international de poésie de Trois-Rivières, je l'avais lu lors d'un 5 à 7, et Nicole Brassard, qui était dans la salle, de Jean-Paul, j'ai mal.
Ah oui, absolument.
Parce qu'elle dit, absolument. À cause que les images sont assez fortes.
Absolument, très très forte, vraiment très forte. Vous savez, Jean-Paul Daou, nous avons un employé ici qui est un jeune homme, il est dans la trentaine, alors il est tout jeune, et c'est un gars qui est bien de son époque. Et quand il a su que vous étiez mon invité, il m'a tout de suite dit, à ce moment-là, on ne savait pas qu'il y aurait eu la Moses de neige qui vous aurait empêché de venir, il m'avait tout de suite dit, il faut que tu me le présentes, il écrit trop bien cet homme-là. Mais oui, mais c'est ça. Mais j'imagine que venant d'un jeune, ça doit vous toucher encore plus.
Ah ben oui. D'ailleurs, je lis beaucoup. J'essaie de lire tout ce qui se fait. Bon, je peux pas tout lire. Vous savez, il y a 150 recueils de poésie par année au Québec.
Bien sûr.
Mais j'essaie d'en lire le plus possible. Et c'est moi ce qui me stimule, c'est de voir comment l'audace, l'énergie des jeunes poètes qui prennent à bras le corps le langage et qui osent.
C'est ça.
Je trouve que la poésie québécoise se porte très bien.
Très bien. Hein?
Et
oui.
Elle étonne la poésie, vous savez, européenne et étrangère, non seulement par son audace, mais par ses thématiques. On ose.
On ose, c'est ça, exactement.
Et on ose jouer avec les formes aussi.
Oui.
On est peut-être, évidemment, on n'a pas tous les siècles derrière nous, donc ce qui fait qu'on est peut-être moins sclérosé aussi.
Oui.
Et il faut dire qu'on a notre côté américain. Et ça, je pense, c'est un avantage au niveau, justement, du rythme.
Ah, oui.
Parce que... Bon, on vit dans un environnement américain. Moi, je dis toujours qu'on est des Américains qui parlent français parce que toute notre culture, notre façon de se promener dans nos villes et tout, mais évidemment, on a aussi cet héritage européen. C'est ce qui fait notre grande force, je crois.
Oui, absolument. Jean-Paul Daou, j'aurais encore une fois, parce que ça m'arrive tellement souvent, j'aurais aimé faire durer le plaisir de converser avec vous, mais le temps nous manque. Je voudrais rappeler que Libellule, Couleuvre et autres merveilles, ainsi que Le Vitrail brisé, sont deux recueils de poésie qu'on peut se mettre entre les oreilles. Jean-Paul Daou, merci beaucoup.
Ben, ça me fait énormément plaisir et bonne continuité.
Merci. À vous aussi, bonne fin de journée. Salut, au revoir. Des livres pleins les oreilles, la suite. Il y a quelques minutes, je m'entretenais avec Jean-Paul Daou qui nous parlait notamment de cet accident qui a fait en sorte qu'il s'est retrouvé à l'hôpital et pour un long, long moment avec des fractures au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du cou, avec un genou complètement déconstruit, etc. Il nous en parlait. C'est à cette époque qu'il avait sorti, du moins quand il a commencé à s'en sortir, parce qu'il l'expliquait aussi, écrire de la poésie, c'est quand même très physique. Et lorsque le corps est ainsi complètement disloqué, c'est difficile d'écrire. Et mais donc, il avait écrit le vitrail brisé, dont je vais vous lire maintenant deux courts extraits, donc deux poésies extraits de Le vitrail brisé que vous pouvez trouver via le SQLA en version audio. Dans la voiture, se calfeutrer le mieux possible, serrer des dents au moindre soubresaut. Des affiches publicitaires agressent le paysage. La distance à parcourir n'en finit plus d'étaler les antichambres de l'enfer. Des étoiles noires constellent les yeux. Il paraît qu'il fait beau. On se le disait, hein, que ce sont des mots tellement empreints de douleur que tu as l'impression d'avoir mal pour lui. Puis il y a ça aussi. Graphique de sang séché, l'hôpital, la nuit, fait peur de ne pas vouloir déranger. Les lèvres sèches mendient, les yeux épis, les mains inertes espèrent. Le cerveau, le sommeil dans le corridor déserté. Même la lune n'a pas droit de visite. Et voilà, de M. Daou, qui a aussi lu par lui-même « Libellule, couleuvre et autres merveilles » que vous pouvez également vous glisser entre les oreilles. J'en ai des petits extraits pour vous. Alors ça, c'est beaucoup plus léger. C'est un hymne aux animaux, insectes, surtout les insectes d'ailleurs. Par exemple, le gospel des Wawarons. Au milieu des quenouilles coiffées de nénuphars, les Wawarons jasent. Leur chant d'amour entame un gospel grave, agrémenté d'une contrebasse. Un ami, médusé, essaie de les imiter. Il y a aussi, ah oui, ça j'aime ça, tarentules et tarentelles. Deux immenses fleurs ornent la porte moustiquaire de la villa à Puerto Cuepos, au Costa Rica. Dans chacune, une tarentule veille, divinité poilue que j'ai surnommée Howard and Johnson. J'ai envie de les caresser, mais je m'abstiens. Sinon, ces tarentules me feraient danser la tarentelle. Elles ont l'air de petites pieuvres en peluche. J'aime bien savoir là ces deux sentinelles qui veillent, bien nichées dans ces grandes fleurs, dont je ne connais pas le nom. Voilà, tarentules et tarentelles, c'est signé Jean-Paul Daou, régalez-vous les oreilles. Ça fait du bien, un petit peu de poésie. Et en studio avec moi, certainement, une des plus belles voix parmi les voix bénévoles qui vous lisent des livres inlassablement, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dans votre cas.
Ça fait 10 ans.
Claude Robillard.
Et c'est un plaisir.
Et c'est un plaisir toujours. Oui. Quand je vous disais que c'est quand même une des plus belles voix. Hein?
Merci.
Claude, c'est pas la première fois que vous participez à l'émission. Vous nous arrivez aujourd'hui avec un livre, je crois... qui n'est peut-être pas un livre essentiel, mais qui est un livre important pour vous notamment, et j'imagine donc du coup pour beaucoup de gens qui vont le découvrir.
C'est un petit livre intéressant,
oui.
Pas un grand livre, mais comme je suis, comme bien des gens, dans une démarche de mieux vivre, il y a des bouts qui m'ont parlé.
Ah oui?
Assez pour que l'émotion soit au rendez-vous. Il y a des moments, des fois, à vue et voix, où c'est rare, mais ouais. Ça arrive quand même. Ou en lisant les livres, on est obligé de s'arrêter essuyer une larme.
Ah oui, ça va jusque-là.
Dans ce livre-là. Ah oui, oui.
Oh, jusqu'au petit
Kleenex. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là, pour vous en parler
Peu. On a bien hâte de vous entendre.
Alors, le livre, l'auteur s'appelle Martin Page, et le titre de son livre est « L'art de revenir à la vie okay. ». Alors... Je commence à lire ce livre, coïncidence, le personnage principal se nomme Martin, il a 41 ans. Et que fait-il dans la vie? Coïncidence, il est un auteur. Me suis dit, tiens, un autre auteur qui a le syndrome de la page blanche, il va écrire sur le fait de la page blanche, l'écrivain, etc. Alors, ça va être passionnant.
Et il y a beaucoup de choses à dire sur la page blanche.
Oui. Donc, l'histoire, c'est Martin qui se rend à Paris afin de rencontrer Sanaa, une productrice qui veut adapter son dernier roman pour le grand écran. Martin y voit enfin une opportunité qui lui fera trouver gloire et argent. À Paris, il va loger chez son ami artiste Joachim, chez qui il fera connaissance avec sa toute dernière œuvre, « La machine à remonter le temps ». Alors, je me suis dit, Encore une machine à remonter le temps.
Moi
c'est
aussi.
Du déjà lu et c'est du relu.
Oui.
C'est du déjà vu et du revu.
Oui.
J'en peux plus, je suis repu, j'en perds mes ailes. Mais, à vues et voix, on termine les livres qu'on commence.
Oui.
On donne la chance aux coureurs.
Ben oui.
Alors, Martin, que va-t-il faire?
Et aux auditeurs de les entendre aussi.
Oui, absolument.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais on est quand même là aussi beaucoup pour ceux qui vont les lire. Voilà, c'est ça.
Alors, que va-t-il arriver à Martin?
Oui.
Lecture, page 22.
D'accord.
La machine s'ouvre. À l'intérieur, une banquette en tissu rouge s'étend tout du long. Je suis comme aimanté. Je veux m'y coucher. J'ai l'impression d'être dans un cocon. C'est confortable, je suis bien. Je m'endors. Je vois son visage. Il ressemble au jeune adolescent que j'étais. En rectification, il ne me ressemble pas, c'est moi. Ma respiration se bloque, ma vue se brouille, mes lèvres et mes doigts se mettent à trembler. C'est moi? Je dois avoir 12 ans, mais qu'est-ce que je fais là? Je dis « Bonjour ». Je m'approche de lui. Je dis « On se connaît. Je vais te dire quelque chose, ne panique pas. Je suis toi, ou tu es moi, je ne sais pas comment c'est possible, mais je suis celui que tu seras dans 29 ans. Je peux te le prouver. » Il se lève, je le suis. « Je sais des choses sur toi que tu es le seul à connaître. » Il s'arrête et me fait face. Par exemple, tu évites de marcher sur les traits qui séparent les pavés au sol. Tu évites de marcher sur les plaques d'égout. Tout le monde fait ça. Pas vraiment. Ça ne veut rien dire. Je pointe du doigt l'enceinte du parc bordé de grands chênes. Si tu creuses au pied de cet arbre, tu trouveras une boîte en fer. Dans cette boîte, il y a une coquille de palourde, une pièce trouée, un dessin représentant le chanteur Renaud et un poème. Son visage rosit. Laissez-moi. Je me réveille en sueur. Au fil de ses rencontres avec Sana, tout déraille.
Bon.
Elle-même, qui est à un tournant de sa vie et cherche des réponses à ses questionnements essentiels, mettra complètement de côté le projet d'adaptation du roman pour faire à Martin ses plus grandes confidences. Il fera de lui, contre son gré, le principal acteur de ces changements tant attendus.
Mais là, quand il rencontre finalement la productrice, il est revenu à son âge à ce moment-là.
Oui, oui, oui.
Ah bon,
il n'est
plus
dans la machine.
Ah, OK, dès l'instant qu'il... Ah oui, d'accord.
Je suis entre les deux.
D'accord.
Alors, à un moment donné, Sanaa lui dira, vous relirez votre contrat. Si le film ne se fait pas, vous êtes à mon service. Vous avez une dette. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demande que 10 jours. J'ai quelques missions à vous confier. Après, nous serons quittes. Alors, et voilà Martin pris dans l'engrenage de ce qu'on lui demande de faire dans cette vie d'adulte qui s'éloigne trop souvent de ce que son moi profond voudrait faire.
Ah, OK, d'accord, c'est là qu'on en revient.
C'est ça.
Oui.
Mais devinez quoi, Clotilde?
Clotilde.
Grâce à la machine à remonter le temps et les rencontres avec son jeune moi, il réalisera qu'il en est rendu à mettre de côté les grands principes de vie qui le façonnaient.
Ah, c'est là où ça vous rejoint beaucoup, vous?
Oui.
Ah, c'est ça.
Lecture.
Oui.
Son jeune moi lui dit... « Je ne veux pas devenir normal. Mais pour qui tu me prends? Je ne veux pas changer simplement pour avoir plus d'amis et une copine. Je ne veux pas une coupe de cheveux cool. Je ne veux pas des vêtements à ma taille. Je n'aime pas que tu critiques ma manière de m'habiller. Je fais ce que je peux et ce que je veux. Moi aussi, je pourrais te critiquer. » Mon jeune moi s'inspire. Il ne fait pas de concessions. Certains adultes se plaignent des jeunes adolescents pour une seule raison, parce que ceux-ci ont souvent raison. Les adultes renvoient les comportements adolescents à un définitif, c'est les hormones. Ça leur permet d'oublier qu'eux-mêmes se sont assagis et désensibilisés sous la pression non pas de la biologie, mais de la vie en société. Son jeune moi. En fait, tu ne sers à rien. Je ne veux pas être méchant, mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi, à part me raconter que la vie va continuer à être difficile? Tu me dis uniquement des choses décourageantes. Manifestement, ta vie d'adulte ne t'a pas permis de résoudre notre rapport au monde. Mais moi, ça m'est égal. Je ne veux pas savoir tout ça. Ton angoisse ne m'aide pas. Tes regrets ne m'aident pas. Tes blessures ne m'aident pas. Comment peux-tu croire que tu vas m'être utile? Je n'ai pas besoin que tu me dises que le monde est parfois atroce. Je le sais déjà. Tu m'énerves. Tu devrais être heureux, plus heureux que tu ne l'es. Tu as tout ce que tu veux et tu te plais. C'est très énervant. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, je serai toujours pessimiste et cyclotimique? C'est déprimant. Tu es déprimant.
Là, faudrait peut-être pas trop nous dire ce qui va arriver à la fin, mon ami, parce que j'aimerais bien qu'on leur laisse un petit peu le suspense. Surtout que, très honnêtement, nous avons déjà, comme on dit dans le jargon radiophonique, défoncé notre temps. Ah. Mais oui, je le sais, ça passe vite. Qu'est-ce que vous aviez encore à
nous
dire?
Ma petite conclusion.
Allez-y donc, votre
Alors,
petite conclusion.
Alors là, Clotilde, je ne vous dirai pas la fin. D'accord. Évidemment, ce roman n'est pas un thriller où on recherche un coupable dans un dénouement d'une intrigue. C'est un petit livre drôle et profond, et aussi une défense de l'imagination comme arme existentielle.
Ah bon. Mais vous nous le recommandez, hein,
J'ai
évidemment.
Aimé. Je Il vous a le aimé. Recommande.
Merci beaucoup.
Merci, Clotilde.
C'était l'adorable Claude Robillard qui s'était drôlement bien préparé pour ça. Merci beaucoup, Claude. Merci. Chronique des nouvelles et des livres, on pourrait appeler ça ces livres qu'on peut, qu'on veut lire, relire ou qui seront présentés au théâtre. « Vol au-dessus d'un nid de coucou » de Ken Casey est présenté en ce moment même et ce jusqu'au 23 avril au Théâtre du Rideau Vert avec, et ça c'est important, deux comédiens qui font partie de l'organisme La Muse. Qu'est-ce que La Muse? C'est un organisme qui fait travailler des jeunes qui vivent avec un handicap intellectuel. Et bien là, Michel Monti, qui est le metteur en scène de cette relecture de Vol au-dessus d'un nid de coucou présenté au Théâtre du Rideau Vert, a fait appel à deux comédiens de l'organisme La Muse. Ils s'appellent Philippe David et Jean-François Huppé. Faut-il vous rappeler très brièvement cette histoire, l'histoire de Randall McMurphy qui se croit malin, qui a réussi à convaincre la cour qu'il est fou et qui s'est fait du coup envoyer à l'institut psychiatrique plutôt qu'aux travaux forcés. Lui, il est convaincu que c'est une aubaine, mais il déchante lorsqu'il est confronté à la réalité de l'établissement où la routine se répète inlassablement sous l'égide de l'intransigeante infirmière en chef Richard, qui est interprétée par nul autre que l'incontournable Julie Le Breton. Mais M. McMurphy ne s'en laisse pas imposer, alors un duel acharné éclate entre les deux têtes fortes. McMurphy, qui grâce à sa jovialité naturelle, gagne l'amitié de quelques patients et les entraîne dans sa lutte contre la tyrannie, semant la zizanie au sein du service. Alors parmi ses camarades d'infortune, il y a donc ces deux comédiens, Philippe David et Jean-François Huppé. Je vous rappelle que c'est en ce moment jusqu'au 23 avril au Théâtre du Rideau Vert. Cela étant dit, pour trouver des places, ce n'est pas évident, mais il y aura peut-être d'autres supplémentaires qui seront annoncés. Et puis, souvenez-vous, il y a quelques mois, j'ai reçu à cette émission des livres pleins les oreilles Anaïs Barbeau-Lavalette, celle qui a tellement fait parler d'elle, et c'est tant mieux avec ce livre fantastique qui s'appelle « La femme qui fuit ». Eh bien, Luc Boulanger dans la presse nous dit, lui et d'autres, qu'un an et demi après sa parution, le fabuleux succès du roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette se poursuit. Récompensé de 2 prix et tiré à 75 000 exemplaires chez Marchand de Feuilles, « La femme qui fuit » sera adapté au théâtre et produit d'ici 2 ou 3 ans au TNM. En attendant, dès l'automne prochain, on pourra voir la lecture-spectacle du roman orchestré par Brigitte Henkens dans le cadre d'une tournée d'une quarantaine de salles au Québec. Alors oui, l'auteur a très hâte de voir ses mots revivre au théâtre du Nouveau Monde à travers l'univers propre du langage scénique. Toutefois, Madame Barbeau-Lavalette souligne une chose très importante. Elle dit « Le succès de La femme qui fuit est un succès populaire. Elle souhaite donc que la pièce soit accessible à un large public. Depuis la parution de mon roman en septembre 2015, hein, il faut le rappeler ici, elle reçoit chaque jour des témoignages de toutes sortes de mondes, dit-elle, des gens qui n'achètent généralement pas de livres comme des grands lecteurs. Et puis, c'est vrai que l'histoire de Suzanne touche à peu près toutes les générations. Alors, rappelons un petit peu de quoi est fait cette histoire, ce récit hybride entre la fiction pure et la réalité historique. La femme qui fuit raconte, nous dit ici Luc Boulanger dans la presse, la vie de la grand-mère et l'auteur, Suzanne Meloche, une femme fuyante, certes, mais aussi révoltée et révoltante. Jeune poète proche du mouvement automatiste, Suzanne Meloche a côtoyé les Bordua, Gauvreau et Riopel, ainsi que les autres signataires de Refus Global, avant de fonder une famille avec le peintre Marcel Barbeau, puis d'abandonner les siens pour disparaître dans une folle quête de sa liberté. Or, à force de se chercher, elle finira par se perdre. Alors, Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu cette grand-mère libre et indigne de la vie de Suzanne. Elle ne savait que très, très peu de choses avant d'amorcer ce livre-là. Elle s'est surprise à cesser de la juger en écrivant son histoire et elle dit que finalement, elle s'est mise à l'aimer. Alors, la pièce dans 2 ou 3 ans au Théâtre du Nouveau Monde et outre la pièce, donc cette lecture-spectacle de La femme qui fuit qui fera l'objet d'une tournée dans 40 villes du Québec à l'automne 2017 et au printemps 2018, créée en septembre dernier dans le cadre du FIL, le Festival international de la littérature, sous la direction de Brigitte Hankins, la lecture publique met en scène Catherine Deléant et le musicien Bernard Falaise. On pourrait presque dire d'un poète à un autre, parce que Frédéric Garicomo, que j'accueille la semaine prochaine, vit beaucoup aussi dans la deux et part et dans la poésie. Il en écrit, il en mange, il en dévore, il en met en musique. Frédéric Garicomo qui a signé 4 disques qui ont été applaudis par la critique, une quinzaine de recueils de poésie dont Ravage et Souffle. Il a été d'ailleurs finaliste au prix du gouverneur général en 2012. Il y a eu un premier roman, Vertige, paru en 2013, qui lui a valu le prix Jacques Cartier du roman et de la nouvelle française. Alors un petit coup d'œil à la 4e de couverture qui nous dit « Evelyne a traversé la vie d'Antoine » comme un météore. Ensemble, ils ont sillonné l'Amérique, ils se sont abandonnés à toutes les ivresses. Puis, elle est repartie comme elle est arrivée, sans prévenir. Antoine se réfugie alors dans la forêt pour composer 12 chansons à la mémoire de l'absente. Puis, il s'envole pour Tokyo, où il fera la rencontre du mystérieux professeur Aoki et de l'évanescente Akiko. 12 chansons pour Evelyne suit la trajectoire brisée du poète et chanteur acadien Antoine Bourque, un road novel captivant entre le Montréal des années 90 et le Japon d'aujourd'hui, en passant par le Mexique et le Portugal. S'il me reste un petit peu de temps, j'aimerais peut-être en lire une petite minute, c'est parfait. Je vais vous lire tout le début, tiens, en une minute. C'est le chapitre 1 de ce livre de Frédéric Garicomo que je reçois la semaine prochaine, je vous le rappelle. L'air est lourd, presque liquide. Mais est plus doux qu'à l'ordinaire. Un goût de cendre s'est posé sur ma langue qui peine à s'éveiller. Entre mon crâne et mes pieds, tout ce qui peut craquer se met à craquer. Tout ce qui peut tourbillonner se met à tourbillonner. La saison s'est ouverte sur une chanson oubliée. Je n'avais pas entendu la valse à mille temps depuis des lustres et voilà qu'elle s'insinue dans ma vie depuis 3 jours. Depuis que je suis revenu des Laurentides, après avoir passé 3 mois dans ce chalet de Val-David à essayer de composer ce qui pourrait ressembler à une nouvelle collection de chansons, ce que je m'acharne toujours à appeler un album. Je ne sais pas si j'ai réussi. Si vous voulez savoir, vous, s'il a réussi ou pas, Frédéric Garicomo, eh bien, écoutez ce livre 12 chansons pour Evelyne, dont je reçois l'auteur la semaine prochaine. Quelque deux titres en rafale avant de vous quitter. D'abord, c'est la bio du jour consacrée à Stevie Wonder. C'est de Frédéric Adrian, A-D-R-I-A-N. C'est la seule biographie de Stevie Wonder disponible en langue française. Un panorama de toute la vie et de la carrière de Stevie Wonder avec un zoom sur les années porteuses d'albums considérés comme des classiques. Un accent mis sur la musique, mais sans négliger pour autant la vie intime et les engagements politiques. La lutte pour les droits civiques et contre l'apartheid, notamment de l'artiste. Un regard juste et critique qui ne passe pas sous silence les côtés moins sympathiques de la personnalité, caprice de star, relation avec ses anciens collaborateurs. Alors voilà, en près de 400 pages, Frédéric Adrian nous fait revivre chronologiquement d'une plume assez vive, concise et critique le parcours musical et sentimental de l'enfant prodige né en 1950, qui a été star à l'âge de 12 ans et qui est une figure planétaire de la vie musicale, mais aussi de l'action humanitaire des années 70-80. Il semblerait que ce soit un ouvrage bien utile, car curieusement, ce personnage n'a que très rarement inspiré de biographie dans notre pays, notre étant les États-Unis. Tiens, un bouquin qui se lit bien. Le reste de leur vie de Jean-Paul Didier-Laurent. Jean, trait d'union, Paul, Didier-Laurent en un seul mot. Comment, au fil de hasards qui n'en sont pas, Ambroise, le thanatopracteur amoureux des vivants et sa grand-mère Beth vont rencontrer la jolie Manelle et le vieux Samuel et s'embarquer pour un joyeux road trip en corbillard à la recherche d'un improbable dénouement. C'est un conte moderne, régénérant, une ode à la vie et à l'amour d'ailleurs des autres, et tout lecteur fermera heureux, ému et préparé ce deuxième roman qui confirme le talent de Jean-Paul Didier-Laurent, écrit notamment un lecteur sur le site de Babelio. Un autre lecteur écrit encore un roman qui fait du bien, qui se déguste comme un apéro léger sous un parasol, avec les glaçons qui vont bien en compagnie de personnages plutôt sympathiques. Alors je vous redonne le titre, « Le reste de leur vie » de Jean-Paul Didier-Laurent en un seul mot. Un livre utile, tiens, 50 questions pour expliquer le web à mon père. C'est de Fabien Lozach, L-O-S-Z-A-C-H, L-O-S-Z-A-C-H. Réalité virtuelle, Internet des objets, Big Data, éthique numérique, surveillance électronique, économie du partage. Malgré les infinies possibilités qu'il nous offre, le merveilleux monde d'Internet est un univers parfois complexe qui peut sembler impénétrable pour qui n'en connaît pas les codes et les usages. Sociologue 2.0 et stratège interactif, Fabien Lozach dissèque chaque samedi la culture numérique dans ses chroniques à l'émission La Sphère sur la première chaîne de Radio-Canada. C'est d'ailleurs ces chroniques qui ont servi de base à son nouveau bouquin « 50 questions pour expliquer le web à mon père », un essai sociopop qui tente de démystifier le web et ses enjeux, mais qui se penche aussi sur le profond impact des technologies numériques sur nos vies collectives et individuelles. Bref, c'est un outil fort intéressant pour les parents de millénials qui peinent à se retrouver entre les Snapchat, les Tinder, les Yo et autres WhatsApp, mais aussi pour les plus jeunes qui voudraient approfondir leur réflexion sur le web, les médias sociaux et les nouvelles technologies. Et vous aurez compris que j'en fais partie. Le livre de recettes, l'érable c'est bon en sirop, c'est de signé de Micheline Mongrain-Dontigny. Du déjeuner au souper, on utilise désormais l'érable à toutes les sauces, que ce soit dans des recettes traditionnelles comme des grands-pères au sirop d'érable ou dans des recettes actuelles comme du magret de canard sauce au bleuet parfumé à l'érable. Le sirop est à l'honneur dans ce livre qui en fera saliver plus d'un. L'érable, c'est bon en sirop, c'est 100 recettes savoureuses, avec des bonus au dessert, en passant commençant par le plat de résistance et en bonus, donc la fascinante histoire de ce merveilleux aliment, son folklore et l'évolution des méthodes de cueillette et de fabrication des produits de l'érable. Avouez que ça tombe bien quand même en ce moment. Un livre qui vous fera certainement sourire, ça s'appelle « Les petits vieux d'Helsinki se couchent de bonheur », c'est de Minna Lindgren, L-I-N-D-G-R-E-N, elle est suédoise si je ne m'abuse. Alors un petit résumé, Siiri, S-I-I-R-I, Irma et Anna-Lisa sont de retour au bois du couchant après une petite escapade en colocation. J'ai oublié de vous dire que c'est un tome 3, mais qu'on peut prendre absolument n'importe quand, au premier, au deuxième, au troisième. Si vous le prenez au troisième, vous n'avez rien raté, ne vous inquiétez pas, c'est juste une histoire qui se poursuit, mais pas une histoire avec un début, une fin. Là, voilà, vous pouvez arriver là-dedans, non pas comme un cheveu sur la soupe, mais le contraire. Cependant, donc, il y a un endroit qui a bien changé et plus aucun petit vieux ne s'y sent chez lui. Ben, c'est justement cet endroit, le bois du couchant, où vivent ces petits vieux d'Helsinki. Devenue une pointure technique dans la gestion du troisième âge, la résidence fonctionne désormais en circuit fermé, sans plus aucun être humain pour la superviser, si ce n'est quelques volontaires d'une association chrétienne. Alors que les résidents subissent non sans humour les joies d'une technologie aussi moderne qu'absurde, le bois du couchant est peu à peu envahi par les rats et les bénévoles, lesquels se font prédicateurs et experts en droit de succession tout à la fois. Ouais, c'est vraiment un livre pour rigoler. « Les petits vieux d'Helsinki se couchent de bonheur » de Minna Lindgren. Et on va finir avec « Vrai ou faux, c'est le polar du jour », une enquête de Maud Graham, de Christine Brouillette. Alors que la détective Maud Graham commence à réaliser que ses parents se fragilisent, elle est appelée à enquêter sur le meurtre de Lydia Franker, la secrétaire de la résidence des Cèdres. Dans cet univers apparemment paisible, décidément, Maud et ses collègues de l'équipe d'enquêteurs du service de police de la ville de Québec font face à des embûches inhabituelles. Si ces policiers chevronnés savent composer avec la dissimulation et la manipulation, ils sont beaucoup moins familiers avec le flou, la frustration et la détresse qui découlent des problèmes liés au vieillissement. Vrai ou faux, une enquête de Maud Graham, signée Christine Brouillette. Ainsi s'achève cette émission des Livres pleins les oreilles. Merci à Martin Forgue et merci à mes invités, notamment Claude Robillard et Jean-Paul Daou et Gérald Cousineau. À la semaine prochaine.